Bienvenue sur un énième 14e épisode de mon podcast DS Elite 2.0. Je vous accueille, je suis Kietrine, coach de vie. Je vous parle en direct depuis la Martinique et je partage avec vous un petit peu mes conscientisations en tant que thérapeute et aussi en tant que coach qui travaille avec des thérapeutes. Et également, je partage avec vous les témoignages de mes élèves et de mon entourage, qui est vraiment source d'inspiration, pour vous inviter finalement à vraiment transcender les schémas de souffrance, les choses qui viennent nous titiller au quotidien. Et je vous remercie également pour tous les messages, les commentaires que vous me faites parvenir, parce que ça me permet de savoir effectivement, ça m'inspire, ça me motive à continuer à partager avec vous. Alors aujourd'hui, c'est un grand thème. En fait, je fais la pause aussi avec vous à travers ce podcast. Hier, en fait, je suis allée marcher sur la presqu'île de la Caravelle avec une amie. Et on abordait un sujet que c'est vrai que j'entends assez souvent. Et je lui ai dit, tiens, ça tombe bien, j'avais plusieurs thèmes que je voulais partager à travers mon prochain épisode podcast. Et je lui ai dit, voilà, si tu écoutes, tu vas te reconnaître et merci pour cette inspiration. Donc effectivement, le thème c'est comment aider sans chercher à sauver. Ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup beaucoup auprès des thérapeutes, que j'ai beaucoup vécu aussi. Et il y a tellement de choses que j'ai envie de partager. On va commencer ensemble. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts. Alors déjà, en fait, vous avez sûrement déjà entendu cette notion de le triangle de Cartman, sauveur, bourreau, victime. Sûrement que ça, vous l'avez déjà entendu. Et si ce n'est pas le cas, on va dire que peu importe un peu les étiquettes, c'est plutôt un phénomène qu'on le ressent très souvent en tant que thérapeute, en tant qu'être humain, en contact des autres. C'est que ce qui arrive, c'est que sur son chemin, sur son cheminement, on conscientise des choses, on prend conscience de certaines choses pour nous. Ça part souvent d'un mal-être, d'une souffrance intérieure et qu'on ne comprend pas toujours. Et puis on se fait aider, on teste des outils, on teste des choses, des solutions. Et ces solutions, elles marchent pour nous. Et souvent, ce qui arrive après, c'est quand on rencontre d'autres personnes qui souffrent des mêmes choses dont on a souffert, on a juste envie de dire « Ah, mais moi, ça a marché pour moi !» Donc, on a juste envie d'aider l'autre, et ça, c'est assez universel. Il n'y a personne qui n'a pas envie d'aider les autres. Donc voilà, on part un peu de ce postulat de base que humainement, ça me rappelle un peu toujours les études où ils montrent les bébés, c'est qu'on leur donne l'occasion, ils ont juste envie d'aider, c'est naturel, c'est inhérent à la nature humaine. Naturellement, en fait, l'être humain a envie d'aider l'autre. Voilà, c'est le premier réflexe. Après, on est bien d'accord qu'il y a l'éducation, l'évolution, les traumas qui font que derrière, adulte, un premier élan, on a envie d'aider l'autre. Et après, il y a toutes les croyances de « Ah, mais cette personne, et puis qu'est-ce qu'on va penser ?» Le jugement des autres, tout ça. J'espère que ça résonne en vous. Et donc voilà, on part du postulat de base que naturellement, l'être humain a envie de tendre la main vers l'autre, de l'aider. Maintenant, c'est quoi la différence entre aider l'autre et chercher à le sauver? Alors, parce que c'est est-ce que c'est un travers? Oui, on peut l'appeler ça un travers, puisque en fait, c'est source de souffrance, parce que ça crée, quand on se met dans un rôle de sauveur, bon, concrètement, ça veut dire quoi? C'est qu'on cherche à sauver. À sauver l'autre, vous l'aurez compris, c'est-à-dire on va s'impliquer, créer des attentes vis-à-vis de l'autre. J'allais dire, il y a une notion un petit peu de forcer les choses également, forcer les choses, se donner une importance, une suffisance, une reconnaissance. En gros, presque, j'allais dire, on se met dans une position qui devient en fait pas saine vis-à-vis de l'autre, parce que ça crée, quand on cherche à sauver l'autre, on crée bien sûr des attentes, et surtout ça crée un lien de dépendance vis-à-vis de l'autre, un lien thérapeutique. Et dans le cadre, j'allais dire dans le cadre amical, dans le cadre familial, en tant que thérapeute, c'est-à-dire à moins que ça soit une démarche qui a été faite, Qu'une personne, un patient, une élève, un client vienne nous voir dans un cadre thérapeutique et demande de l'aide. Quand on est avec des amis, notre entourage, la famille, tout ça, c'est quoi la différence justement? Comment on peut aider sans chercher à sauver absolument? Et souvent, quand on se met dans le rôle de sauveur, on n'en a pas forcément conscience au début. Mais en fait, c'est énergivore, c'est assez vampirisant et puis surtout, ça crée un lien de dépendance. Donc ça, en fait, c'est quelque chose que j'entends tout le temps, surtout pour les thérapeutes qui commencent. Alors, c'est vrai que quand je parle de thérapeute, c'est au sens large et bien sûr, ça concerne surtout les thérapies alternatives. On sort un petit peu de l'académique du classique. Et si je prends mon exemple, au début, quand j'ai commencé à enseigner le yoga, à pratiquer le soin, le massage et tout le reste, au début, en fait, on n'a pas trop confiance en nous. On a nos premiers élèves, on est tout ému, on est trop content. Je veux dire, on est fier parce que c'est une reconversion et puis on prend soin des gens, c'est tellement précieux. Et en fait, on est en demande, on est grave en demande que les gens nous sollicitent. Et donc, en fait, on ouvre grand la porte à plein de choses. Donc ça dépend des personnalités. Moi j'ai ouvert la porte à beaucoup de choses et c'est vrai qu'au début j'étais trop contente que les gens viennent entre guillemets clairement se déverser à la fin des cours de yoga, me faire part de leurs problèmes, de leurs douleurs, de leurs soucis. Et moi je m'étais surinvestie dans ce rôle de thérapeute, de prof de yoga et puis je faisais plus qu'écouter, je buvais leurs paroles à tel point que bien sûr, à force d'être un déversoir, je me rappelle même que des élèves m'ont dit ah, c'est trop bien quand on vient chez toi, on dépose nos poubelles. Et puis et moi j'étais trop fière en disant mais oui, allez-y, déposez vos poubelles, je suis là pour ça. Et on est bien d'accord que dans ce rôle-là, j'ai pas tenu très longtemps. Quand j'ai commencé à enseigner, il me semble qu'au bout de quelques mois, j'en avais marre. Je supportais plus les élèves, vraiment. J'en pouvais plus, j'en avais marre, ça me saoulait en fait. Et c'est pas que j'aimais plus les gens, c'est que je supportais plus les plaintes et tout. Et je vous raconte ça parce qu'en fait, je pense que c'est assez commun à pas mal de thérapeutes qui sont en reconversion, qui démarrent. Au début, on n'a pas trop confiance, donc on est à fond, on est passionné, puis on y va sans limite, quoi. Et ça, c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui à travers ces partages, à travers les accompagnements sous forme de coaching. C'est quelque chose qui est, mais en fait, juste pas, on tape complètement à côté de notre cible. Puisque l'intention, bien sûr, de départ, qui est très belle, hein, qui est assez noble, on va dire, c'est de prendre soin des autres. C'est ça, ouais, prendre soin des autres à travers le partage d'outils. Et en fait, quand on ne pose pas de limites, on n'a pas clairement identifié qu'est-ce qui permet aux autres de guérir, de se guérir. Et c'est en lien avec mon dernier épisode, si vous l'avez écouté, sur qu'est-ce que les patients, les clients viennent chercher. Cette vibration de guérison, cette qualité de présence que je décrivais, au-delà de la reconnaissance, des compétences, des formations, des diplômes et tout le reste. Bien sûr que ça joue, hein, dans un premier temps, les spécialisations de chacun. Mais derrière, qu'est-ce que la personne vient vraiment chercher? C'est une qualité de présence. Donc ça, c'est le fruit de tellement d'années de pratique et de réflexion. Hein. Et ça, je me dis, mais faisons-nous gagner du temps et prenons le temps, en tant que thérapeute, en reconversion, enfin peu importe, de poser cette notion de c'est quoi la guérison, c'est quoi la thérapie, c'est quoi notre intention de pourquoi on fait ça. Et je reviens toujours à l'intention de pourquoi on fait telle ou telle chose, pourquoi on choisit de faire telle ou telle chose, parce que on s'en rend compte à un moment donné que peu importe ce qu'on fait, c'est vraiment le pourquoi je le fais, et peu importe ce qu'on fait derrière. Et quand on choisit effectivement ce rôle de thérapeute, c'est très facile de tomber dans le rôle du sauveur. Parce que du coup, en plus, on a cette étiquette de thérapeute qui nous donne encore plus de crédibilité. Donc, on s'investit dans un rôle que souvent on ne nous demande pas. Et derrière, en fait, ça donne d'un côté, sans s'en rendre compte, et peut-être au bout d'un moment, on est vampirisé. on crée un lien de dépendance thérapeutique vis-à-vis de l'autre, parce que l'autre, du coup, ben, comme on est dans un rôle de sauveur, il se met en mode victime, et il s'y complaît, et nous aussi, et chacun joue son rôle superbement. Et derrière, ben, ça crée énormément de dépendance. Moi, c'est quelque chose que j'ai très très bien vécu, des deux côtés, bien sûr, en tant que thérapeute et en tant que pas thérapeute. Hein. Et ça, et ben, c'est pas bon, ça fait pas du bien, et surtout, ça fausse la relation à l'autre. Et justement, il faut aussi prendre conscience, je voulais vraiment préciser ça, c'est que souvent les gens, j'avais une amie qui me disait « Ah mais toi Catherine, t'étais plutôt toujours dans le schéma victime. » Je lui dis bah, « Tu sais, en fait, un jour on est victime, le lendemain on devient bourreau et puis un jour on est sauveur. » Et en fait, il faut se rendre compte que, parce que humainement, c'est sûr qu'il n'y a personne qui a envie de se poser en victime, c'est pas trop la classe, ou il n'y a personne qui a envie d'être bourreau, encore moins. Tout le monde a envie d'être sauveur, le saint sauveur, parce que dans les croyances, les égrégores sociétales, c'est toujours cool d'être le bon samaritain, c'est bien vu. Sauf que ça, on est bien d'accord que ceux qui le sont trop se perdent, souvent tombent malades et ça fait pas du bien. Donc en fait, il n'y a aucune des trois positions qui est meilleure. Il y a juste sortir de ce trio infernal, si je puis dire, et de se rendre compte que, bah, par exemple, dans une relation là, de dépendance thérapeutique, par exemple, un classique, hein, sa meilleure amie qui ne va pas bien du tout, ou moi qui ne va pas bien, et qui appelle toujours la même personne pour dire ah, « ça ne va pas », et l'autre personne fait de son mieux et se met voilà, en mode sauveuse, et moi je me mets en mode victime, bah, derrière après je deviens un bourreau puisque je la vampirise, et l'autre ensuite bah, se sent vampirisée, et du coup elle met le mur de Berlin en disant « non, là ça j'en peux plus », et c'est elle qui devient bourreau, et moi je ne comprends pas pour moi parce que je me remets en victime en disant « ah ben elle m'aide plus, donc elle a fermé la porte et moi je me sens mal et il y a du ressentiment. » Donc si ça résonne en vous, là c'est des schémas qui sont très 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 courants. Et donc par rapport à ces schémas qui s'installent de dépendance thérapeutique ou affective, hein, où on va chercher vraiment ce côté sauveur chez l'autre, et on va se victimiser, ou le contraire, les gens nous consultent et nous contactent en mode victime et nous on s'investit du rôle de sauveur. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que bah, y a des identifications, qu'on travaille beaucoup, beaucoup sur la désidentification en coaching. Moi, c'est ce qui m'a libérée parce que, ben, en fait, sans s'en rendre compte, on a des croyances limitantes, les fameuses, et puis ben, on croit que, en fonction des croyances qu'on a encodées jeunes, ben, on pense qu'il faut sauver pour être aimé, il faut se victimiser, pour être aimé, qu'on se reconnaît que dans la maladie et dans le mal-être, qu'on ne peut pas faire autrement parce qu'on n'a pas le droit au bonheur, que, enfin voilà, c'est le fruit de croyances erronées. Et au final, on se travestit dans ces rôles qui sont pas nous, en fait, et on n'est pas aligné, on n'est pas nous-mêmes, on joue des rôles. Et on est bien d'accord qu'aujourd'hui, il y a véritablement une urgence à l'éveil et que faire semblant d'être quelque chose d'autre que ce qu'on est véritablement, bah ça fait pas du bien, ça nous limite dans notre potentiel, ça nous limite dans notre pouvoir créateur, ça nous limite dans notre bien-être et ça nous limite dans notre vibration et puis ça fait pas du bien du coup ni à soi ni à notre entourage. Donc en fait, quand on réalise un petit peu ces costumes qu'on a endossés, c'est pas grave si vous vous reconnaissez dans ce que je raconte, parce que moi je l'ai fait tellement longtemps, et ben c'est de se dire ok, effectivement ça j'en veux pas. Et ma pote hier me disait ça, mais comment je fais pour aider sans être dans le rôle sauveuse? Alors je vais un petit peu partager avec vous les mêmes conseils que je lui ai donné, parce que ça fait plusieurs fois que je les répète en fait, et je me dis ah tiens, il y a peut-être quelque chose qui peut trouver résonance auprès des autres. Et j'allais dire, que vous soyez thérapeute, dans un rôle de thérapeute ou pas, je pense que c'est valable. La première chose, déjà, je dirais, c'est est-ce que la personne, quand elle vous sollicite, déjà, est-ce qu'elle vous demande de l'aide? Dans le cadre amical ou familial, voilà, c'est pas toujours le cas. Et quelquefois, on est un peu en mode automatique, en mode hop, j'ai la casquette sauveuse H24, hein, tout le temps, sans m'en rendre compte, en mode automatique. Et du coup, dès que quelqu'un dépose une problématique, hop, direct, sans même se poser la question si en face, il y a eu une demande qui a été faite de « j'ai besoin d'aide » ou de conseil, on se met en mode « ah bah tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, bam, 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 bam. » Déjà ça, est-ce que l'autre a demandé de l'aide? Donc si on est dans un cadre thérapeutique, on est bien d'accord qu'a priori oui. Ensuite, si effectivement il y a un besoin qui est émis, par rapport à une demande de conseil, voilà, c'est de d'effectivement bah, de prendre le temps d'écouter un petit peu, après en posant ses limites, parce que moi par exemple, si la personne se déverse trop et en négatif et se plaint et parle mal des autres, à un moment donné je me sens pas bien. Donc j'aurais tendance moi à réorienter discrètement, enfin j'allais dire avec beaucoup de bienveillance, à réorienter et poser mes limites parce que je sais que pour moi après je me sens pas bien et après j'ai moins envie de voir la personne, c'est comme ça. Donc déjà c'est... S'il y a une demande qui est déposée, une demande d'aide, bah c'est de parler de soi. Le plus important, c'est de parler de soi, c'est-à-dire, eh ben voilà, moi j'ai vécu ça, je l'ai solutionné comme ça, peut-être que ça résonne en toi, mais de ne pas porter de jugement sur ce que l'autre vit, parce que bah, tout le monde a ses prismes, ses filtres. Hein. Chaque expérience, même exactement la même expérience, sera vécue tellement différemment d'une personne à l'autre, c'est tellement subjectif. Maintenant, il y a une souffrance qui est là. Celle-ci, on ne peut pas l'ignorer, ça fait mal. Ça fait mal au cœur, ça fait mal à la tête, ça fait mal au corps. Et par rapport à cette souffrance, on a besoin de réconfort. Donc, souvent, moi, comme j'ai fonctionné, c'est je vais parler de moi. Je vais parler de moi, je à la première personne, de ce que j'ai vécu, qui peut ressembler à ça, et comment j'en suis sortie, quelles leçons j'en ai tirées. Et parce que ben, je n'ai pas la prétention de connaître exactement ce que l'autre vit. Maintenant, je sais que j'ai une expérience de vie qui fait que quelquefois, on peut effectivement en tirer les leçons et le partager. C'est ce que je fais avec vous, avec mon entourage, mes élèves, tout ça. Donc voilà, je parle à la première personne, je partage mon expérience, mon ressenti, et puis bah, après, si ça trouve une résonance en l'autre, bah là, bah super. Et en général, il n'y a pas de hasard, comme tout est vibratoire énergétique, il n'y a pas de hasard dans les rencontres. Et je pars du principe que quand quelqu'un me sollicite, c'est que forcément il a vécu quelque chose que j'ai vécu ou en parallèle, et que forcément il vient chercher une réponse vibratoire à une souffrance. Donc, je parle en général donc voilà, de mon expérience, hein, de moi. Et thérapeutiquement, c'est ce que je fais aussi, je parle de moi. Je mets pas, y a pas comment dire, je mets pas de barrière, en fait, je raconte vraiment mon expérience. Et tous les thérapeutes avec qui je travaille, pas mal de kinés aussi, font la même chose, en fait, quand ils ont des patients, qui ont certaines pathologies, bah, comme par hasard, c'est des choses qu'ils ont déjà eues, hein, comme par hasard, mais pas de hasard. Et donc, ils partagent, bah, tiens, moi, quand j'avais, je sais pas, moi, des lombalgies, ou j'avais des tendinites, ou des soucis au ménisque, au genou, des trucs comme ça, voilà ce qui s'est passé, voilà comment je l'ai travaillé émotionnellement, voilà comment je l'ai transcendé. Et puis, il faut se rendre compte que ben, c'est toujours les mêmes situations, les mêmes contextes qui se répètent et qui font qu'on a les mêmes souffrances. Voilà un peu donc. Ensuite, la deuxième étape, si je puis dire, c'est vraiment de partager son expérience à soi, son vécu, avec le cœur ouvert, avec beaucoup, beaucoup de bienveillance et d'honnêteté. Et finalement, le déposer, bon, juste avec un détachement, après, sans jugement. Ça, c'est pas toujours évident, parce que c'est un exercice, on s'entraîne en fait. Et vous allez voir que plus vous le faites avec beaucoup d'honnêteté vis-à-vis de vous-même, que vous parlez avec, vous déposez avec votre cœur, avec simplicité, sans se torturer. Parce que moi, je me suis longtemps torturée, et ben en fait, ça vibre tellement l'alignement et l'honnêteté que du coup, ben, la personne en face se sent en confiance et elle a envie ben, de. Elle aussi, enfin, ben, elle a envie d'aller mieux, quoi. Et puis déjà, elle a envie de. Quand elle a confiance, elle a envie de partager un petit peu plus. Donc ensuite, après, si en face, le discours reste toujours négatif, qu'il y a que c'est unilatéral, qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'écoute, ou qu'il y ait les fameux oui mais. Les oui mais, toi c'est comme ça, toi c'est plus facile, oh, oui mais. Là il y a une déresponsabilisation de la souffrance, de la vie de l'autre. C'est-à-dire que l'autre se déresponsabilise de ce qui lui arrive, et en général, bah, la troisième étape c'est je responsabilise l'autre. Ça, c'est une recette, mais qui marche de manière universelle. Donc, je pense que j'ai prouvé bah, déjà pour moi, hein, mon entourage proche, mes élèves, mes coachés, de responsabiliser l'autre par rapport à ce qu'il vit et ce qui lui arrive. Surtout si il y a une grosse victimisation, qu'il y a beaucoup de plaintes, tout ça. Bah, de plus en plus, je coupe court et en général, il n'y a même plus de place pour ça. Je pense qu'à un moment donné, on le vibre tellement qu'on ne laisse plus la place à ça. Et ça se travaille. Moi, c'est ce que j'ai pratiqué pour moi et ce que j'enseigne parce que c'est essentiel à mon avis. Pour continuer longtemps en tant que thérapeute, on est bien d'accord que tout le monde a un thérapeute intérieur. Maintenant, de là à en faire son métier, son quotidien et de là à perdurer, je pense qu'il y a vraiment des choses à mettre en place. Et pour pouvoir ménager sa monture, c'est-à-dire soi-même, son cœur, son corps, sa tête, il y a vraiment des choses à mettre en place. Et donc, je responsabilise la personne si elle est dans les oui mais, dans les c'est pas possible, c'est plus facile pour toi que pour moi, blabla. En général, je coupe court en responsabilisant la personne parce qu'on est créateur de sa réalité et qu'il n'y a pas de, comme je disais, de Dieu méchant qui a des idées qu'un tel allait souffrir plus que les autres. Non, non, pour moi, c'est ma vision qui m'a aidée. Et cette vision-là, bah, je ne suis pas la seule à la partager, où on est véritablement créatrice et créateur de tout ce qui nous arrive, qu'on est responsable, il n'y a pas de hasard dans les rencontres avec les personnes, s'il y a des ex ou quoi que ce soit, tout ça c'est une rencontre vibratoire qui devait avoir lieu. Maintenant ça ne veut pas dire qu'il faille y rester si c'est, ça ne fait pas du bien, mais c'est surtout apprendre de ses erreurs, apprendre de ses erreurs pour apprendre les leçons, pour mieux rebondir derrière et se dire ok, ben, je sens qu'il y a des cycles qui se répètent, je sens qu'il y a des schémas qui se répètent. Et en l'occurrence, c'est pas en changeant de copain que ça ira mieux, c'est pas en changeant de métier que ça ira mieux, parce que c'est bizarre, je revis toujours la même chose, la même situation. Et c'est se poser la question sur, ok, quel est ce schéma de fonctionnement que je répète? Quelle est cette croyance erronée que j'ai besoin de réencoder pour transcender ce schéma de souffrance et changer de paradigme véritablement? Moi, c'est ce que j'ai fait pour tellement de choses, de domaines de ma vie qui étaient essentiels parce que c'était la mort intérieure. Et je le partage avec beaucoup, beaucoup de passion parce que c'est tellement une libération quand on s'autorise en fait, voilà, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, entre guillemets, entre celui qui souffre et celui qui écoute et qui aide, qui accompagne, ou celui qui aide et qui accompagne face à celui qui souffre. Hein. Il n'y a pas de posture, on passe toujours de l'un à l'autre, mais cette désidentification à ces rôles-là de sauveur-victime-bourreau, ce manque d'amour qu'on a pour soi, ce manque de reconnaissance que l'on cultive et qui nous fait avoir des schémas qu'on garde jusqu'à la mort pour certains, bah, pour moi ça c'est obsolète, c'est désuet, c'est l'ancien modèle, c'est la vieille école et ça a plus lieu d'être. On vit vraiment une époque très belle, même si ça peut paraître étrange, et c'est pas par comment dire, je sais pas moi, par égoïsme, des choses que j'ai pu entendre auprès de mes élèves, presque on n'a plus le droit d'être heureux en ce moment, ce que je trouve quand même assez fou. Et bien au contraire, si on veut contribuer à un monde meilleur, ben, ça commence par faire le ménage chez soi, à l'intérieur, dans sa tête, dans son corps, réunir, réconcilier les extrêmes, le chaud, le froid, le masculin, le féminin, les contradictions qu'on a. Faire la paix avec son passé, faire la paix avec ses parents, guérir son enfant intérieur, pardonner, se pardonner à soi, pardonner aux autres. Et attention, pardonner, ça ne veut pas dire accepter. Accepter, ça ne veut pas dire accepter, pardonner. Pardonner, c'est au contraire, comment dire? Pardonner, c'est vraiment se rendre compte de sa responsabilité. Et d'accepter qu'on fait des erreurs et qu'on passe à autre chose et qu'on s'offre autre chose. Et se libérer de cette énergie en fait de ressentiment et de rancœur. Donc voilà, je pourrais continuer encore des heures et des heures sur ce thème. Il est très très longuement abordé auprès de mes coachés parce que pour moi c'est une des phases clés, cette désidentification à ses rôles. Et ce qui est génial, c'est que quand les élèves se réalisent « Oh là là, toute ma vie, j'ai fonctionné sur telle croyance, j'ai cherché à sauver mon père, ma mère, ma sœur, enfin bon, j'ai cherché à sauver la terre entière et voilà où j'en suis », ben c'est tellement beau une libération que ça vaut trop la peine d'être partagé et que tout le monde y a le droit. Moi, ça c'est vraiment quelque chose qui est cadeau d'assister à toutes ces libérations, ces guérisons que les gens s'offrent, on est bien d'accord. Et voilà, donc merci pour avoir passé ce moment avec moi ensemble. N'hésitez, enfin, continuez à commenter, à partager, c'est vraiment cadeau. Et moi je vous prépare encore plein d'autres épisodes. Si vous avez suivi le précédent, bien sûr, les conférences sont toujours en préparation, vous l'aurez compris. Je travaille aussi, voilà, mon programme de coaching en ligne qui va arriver là plutôt en octobre. Donc là, je prends vraiment le temps de peaufiner tout ça pour vous. Et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve très prochainement. Donc voilà, continuez à commenter. Je vous embrasse fort, fort, fort et on se retrouve très bientôt.